une petite table, un escabeau, un lit de feuilles mortes et trois coupes d'argile. Voilà tout ce qu'était son mobilier. Deux trous dans la muraille servaient de fenêtres. D'un côté, s'étendaient à perte de vue des plaines stériles, ayant sur leur surface de pâles étangs, ça et là, et le grand fleuve, devant lui, roulait ses flots verdâtres. Au printemps, la terre humide avait une odeur de pourriture. Puis, un vent désordonné soulevait la poussière en tourbillon. Elle entrait partout, embourbait l'eau, craquait sous les gencives. Un peu plus tard, c'était des nuages de moustiques, dont la susurration et les piqûres ne s'arrêtaient ni jour ni nuit. Ensuite, survenaient d'atroces gelées, qui donnaient aux choses la rigidité de la pierre, et inspiraient un besoin fou de manger de la viande. Des mois s'écoulaient sans que Julien vît personne. Souvent, il fermait les yeux, tâchant, par la mémoire, de revenir dans sa jeunesse. Et la cour d'un château apparaissait, avec des lévriers sur un perron, des valets dans la salle d'armes et, sous un berceau de pampres, un adolescent à cheveux blonds entre un vieillard couvert de fourrure et une dame à grand hennin. Tout à coup, deux cadavres étaient là. Il se jetait à plat ventre sur son lit et répétait en pleurant « Ah, pauvre père, pauvre mère, pauvre mère !» et tombait dans un assoupissement où les visions funèbres continuaient. Une nuit qu'il dormait, il crut entendre quelqu'un l'appeler. Il tendit l'oreille et ne distingua que le mugissement des flots. Mais la même voix reprit « Julien !» Elle venait de l'autre bord, ce qui lui parut extraordinaire, vu la largeur du fleuve. Une troisième fois, on appela « Julien !» et cette voix haute avec l'intonation d'une cloche d'église. Ayant allumé sa lanterne, il sortit de la cahute. Un ouragan furieux emplissait la nuit. Les ténèbres étaient profondes, et ça et là, déchirés par la blancheur des vagues qui bondissaient. Après une minute d'hésitation, Julien dénoua la mare. L'eau, tout de suite, devint tranquille. La barque glissa dessus et toucha l'autre berge, où un homme attendait. Il était enveloppé d'une toile en lambeaux, la figure pareille à un masque de plâtre, et les deux yeux plus rouges que des charbons. En approchant de lui la lanterne, Julien s'aperçut qu'une lèpre hideuse le recouvrait. Cependant, il avait dans son attitude comme une majesté de roi. Dès qu'il entra dans la barque, elle enfonça prodigieusement, écrasée par son poids. Une secousse la remonta, et Julien se mit à ramer. À chaque coup d'aviron, le ressac des flots la soulevait par l'avant. L'eau, plus noire que de l'encre, courait avec furie des deux côtés du bordage. Elle creusait des abîmes, elle faisait des montagnes, et la chaloupe sautait dessus, puis redescendait dans des profondeurs où elle tournoyait, ballottée par le vent. Julien penchait son corps, dépliant les bras, et s'arc-boutant des pieds, se renversait avec une torsion de la taille, pour avoir plus de force. La grêle cinglait ses mains, la pluie coulait dans son dos, la violence de l'air l'étouffait, il s'arrêta. Alors le bateau fut emporté à la dérive. Mais, comprenant qu'il s'agissait d'une chose considérable, d'un ordre auquel il ne fallait pas désobéir, il reprit ses avirons, et le claquement des tôlets coupait la clameur de la tempête. La petite lanterne brûlait devant lui, des oiseaux en voletant la cachaient par intervalles. Mais toujours, il apercevait les prunelles du lépreux, qui se tenait debout à l'arrière, immobile comme une colonne. Et cela dura longtemps, très longtemps. Quand ils furent arrivés dans la cahute, Julien ferma la porte, et il le vit siégeant sur l'escabeau. L'espèce de linceul qui le recouvrait était tombée jusqu'à ses hanches, et ses épaules, sa poitrine, ses bras maigres disparaissaient sous des plaques de pustules écailleuses. Des rides énormes labouraient son front. Tel qu'un squelette, il avait un trou à la place du nez, et ses lèvres bleuâtres dégageaient une haleine épaisse, comme un brouillard et nauséabonde. « J'ai faim, » dit-il. Julien lui donna ce qu'il possédait, un vieux quartier de lard et les croûtes d'un peignoir. Quand il les eut dévorés, la table, l'écuelle et le manche du couteau portait les mêmes taches que l'on voyait sur son corps. Ensuite, il dit « J'ai soif ». Julien alla chercher sa cruche et, comme il apprenait, il en sortit un arôme qui dilata son cœur et ses narines. C'était du vin. Quelle trouvaille ! Mais le lépreux avança le bras et d'un trait vida toute la cruche. Puis il dit « J'ai froid ». Julien, avec sa chandelle, enflamma un paquet de fougères au milieu de la cabane. Le lépreux vint s'y chauffer et, accroupi sur les talons, il tremblait de tous ses membres, s'affaiblissait. Ses yeux ne brillaient plus, ses ulcères coulaient et, d'une voix presque éteinte, il murmura « Ton lit ». Julien l'aida doucement à s'y traîner et même étendit sur lui, pour le couvrir, la toile de son bateau. Le lépreux gémissait. Les coins de sa bouche découvraient ses dents. Un râle accéléré lui secouait la poitrine et son ventre. À chacune de ses aspirations, se creusait jusqu'aux vertèbres. Puis il ferma les paupières. « C'est comme de la glace dans mes os. Viens près de moi. » Et Julien, écartant la toile, se coucha sur les feuilles mortes, près de lui, côte à côte. Le lépreux tourna la tête. « Déshabille-toi pour que j'aie la chaleur de ton corps. » Julien ôta ses vêtements. Puis, nu comme au jour de sa naissance, se replaça dans le lit. Et il sentait, contre sa cuisse, la peau du lépreux, plus froide qu'un serpent et rude comme une lime. Il tâchait de l'encourager, et l'autre répondait, en haletant. « Ah, je vais mourir, rapproche-toi, réchauffe-moi. Pas avec les mains, non, toute ta personne. » Julien s'étala dessus complètement, bouche contre bouche, poitrine sur poitrine. Alors, le lépreux l'étreignit, et ses yeux, tout à coup, prirent une clarté d'étoile. Ses cheveux s'allongèrent, comme les raies du soleil. Le souffle de ses narines avait la douceur des roses. Un nuage d'encens s'éleva du foyer. Les flots chantaient. Cependant, une abondance de délices, une joie surhumaine descendait, comme une inondation dans l'âme de Julien, pâmée. Et celui dont les bras le serraient toujours, grandissait, touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane. Le toit s'envola, le firmament se déployait, et Julien monta vers les espaces bleus, face à face avec notre Seigneur Jésus qui l'emportait dans le ciel. Et voilà l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, telle à peu près qu'on la trouve sur un vitrail d'église dans mon pays.